voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous des tchatcheuses. Comme chaque mois, je reçois trois femmes journalistes de trois pays pour commenter l'actualité de votre choix, mesdames. Aujourd'hui, autour de la table, Ana Navarro-Pedro, correspondante pour l'hebdomadaire portugais Visão. Bom dia, Ana.
Bom dia.
Une tchatcheuse arabophone, salam alaikum Samira Ibrahim, Radio Monte Carlo Doualia. Vous animez alors deux émissions sur Monte Carlo Doualia, Les Impertinentes et puis Réussite. Également avec nous, Safi Luna, journaliste malienne à la rédaction Mandingue de RFI. C'est à vous de nous enseigner le mandingue, Safi.
On dit Inis Romain.
Voilà. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir dans le club des tchatcheuses. Les filles, vous connaissez la règle de l'émission. Vous êtes les boss de l'émission. Il sera question aujourd'hui, notamment de la saleté des rues de Bamako, de l'avortement en Angola, de la fille de Donald Trump à la Maison Blanche ou encore de l'actrice Angelina Jolie avec l'archevêque de Canterbury. Et puis bien sûr, les voisines journalistes dans votre pays, vous avez, si vous le souhaitez, la parole pour un coup de gueule ou un coup de cœur à nous faire partager. Il suffit pour cela de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Les voisines journalistes sur le continent africain, d'ailleurs, on parlera de votre sort et de votre métier. Et puis bien sûr, tous vos commentaires également pour les voisins. Vous avez la parole sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Ana Navarro-Pedro, retour sur le débat en Angola à propos de la criminalisation de l'avortement. Vous avez suivi ces dernières semaines.
Tout à fait. Et première chose, les femmes angolaises ont fait reculer le gouvernement et ce n'est pas peu de choses. En deux mots, Angola va avoir des élections en août et le gouvernement, le parti qui est au gouvernement depuis des années, hein, depuis l'indépendance de l'Angola, c'est un parti en plus d'inspiration marxiste dans un État laïque.
Eh bien, MPLA, pour ne pas le nommer.
MPLA. Elle a cédé aux injonctions de l'Église catholique très, très, très conservatrice dans cette région du monde. Et ils ont accepté de criminaliser l'avortement en Angola. Il faut dire que la loi actuelle interdit l'avortement, mais quand même, il y a des exceptions qui sont considérées comme acceptables. Santé de la mère, danger, des cas spécifiques.
Bon. Viol, malformation,
voilà,
notamment.
Etc. Donc, avec cette intervention de l'Église, le gouvernement se préparait non simplement à l'interdire totalement dans
à durcir le code pénal concernant l'avortement.
Et en plus, à pénaliser avec 4 à 6 ans de prison les femmes qui pourraient faire un avortement, comme celles qui, ou les personnes qui pourraient les aider à en faire un. Donc, du coup, vous savez, en Angola, on ne manifeste pas comme dans la rue, comme dans les pays démocratiques ou dans d'autres pays du monde. Quand on va dans la rue manifester, c'est, même s'il y a un parlement, même s'il y a des élections, c'est réprimé brutalement. Les femmes y sont allées quand même. Et elles ont fait reculer le gouvernement. Alors, évidemment, elles ont bénéficié.
Ça veut dire qu'on garde statu quo, finalement.
Pour l'instant,
les exceptions qui auraient durci la loi.
Il y a un petit problème. Les femmes sont manifestées dans la rue. Elles sont allées voir le cimetière, les tombes des femmes qui ont été tuées, qui sont mortes en faisant des avortements clandestins. Et elles ont eu l'appui de la fille du président de la République, Isabel dos Santos, qui est par ailleurs la femme la plus puissante en Afrique, la plus riche et une des femmes d'affaires les plus puissantes.
PDG de la Compagnie Pétrolière Nationale.
Exactement. Ils ont
qui a pris parti, donc,
ils ont eu l'appui
pour les droits des femmes.
D'une juge du tribunal constitutionnel qui a écrit sur sa page Facebook, vous savez, à l'avenir, les filles et les femmes d'hommes riches dans ce pays pourront continuer à faire des avortements dans de bonnes conditions, sont les pauvres qui vont continuer à mourir. Et en plus, aller en prison si elles ne meurent pas. Donc, voilà. Donc, il y a eu des appuis très puissants qui ont fait reculer le gouvernement avec la manifestation des femmes.
Ouais.
Mais il y a une peur. Donc, pour l'instant, maintient le statu quo.
C'est ça, hein, on est d'accord.
Statu quo
qui fait que l'avortement reste illégal, à quelques exceptions près. Hein.
Absolument.
On est bien d'accord.
L'Angola
n'a donc pas reculé en autorisant l'avortement.
Il n'a pas reculé. Juste, mais vous savez ce que ces femmes demandaient quand même au gouvernement. Ça, c'était la gifle absolument monumentale. Elle disait, alors revenons au code pénal de la colonisation, au code pénal colonial de 1886. Vous savez, c'était la gifle. C'était moins dur que ça ne l'était maintenant, ce que proposait le gouvernement. Et donc, évidemment, le problème maintenant, c'est que l'autre grand parti de l'Angola, l'UNITA, qui est dans l'opposition et qui brigue ces élections, eh bien, il continue à se positionner sur les, à appuyer les demandes de l'Église. Le gouvernement, l'MPLA, ont très peur pour ces élections que les congrégations puissantes en Angola et qui sont pourvoyeuses de votes dans les urnes, eh bien, qu'elles se détournent d'MPLA pour permettre à l'UNITA d'avoir plus de votes, voire de gagner. Et en plus, des observateurs laïcs accusent les femmes d'être seulement intéressées par leur propre cas parce que disent-ils que quand il y a des manifestations contre les abus de pouvoir, elles ne sont pas dans la rue. Donc, vous voyez, ça va très très loin. Moi, je dis simplement, le secrétariat du MPLA disait que c'était explosif de mélanger l'avortement avec les élections, et il avait raison.
Ouais, jamais effectivement mettre le doigt sur les questions d'avortement, parce que effectivement, on ne sait pas où ça s'arrête.
Mettre la pression, voilà. Elles ont tout compris.
C'est exactement. C'était le coup de gueule d'Ana Navarro Pedro,
journaliste portugaise,
ancienne puissance coloniale en Angola. Oui. Mais vous ne défendez pas pour autant le code pénal de 1886.
Non. Et je vous signale, on en a parlé. L'actuelle ministre de la justice au Portugal est une Angolaise, donc une Portugaise d'origine angolaise.
Merci beaucoup Ana Navarro. On passe à Samira Ibrahim. Alors vous étiez présente à la. On reste sur le continent africain. La première édition des panafricaines, c'était début mars, à Marrakech. Je me suis dit, tiens, elle est allée faire un petit peu de shopping à Marrakech. Non, 120 journalistes africaines, 120 journalistes africaines de 30 pays pour parler de leur métier. C'est assez inédit, c'est la
Exactement.
Première fois, non ?
C'est inédit, c'est historique.
Réunion de femmes journalistes africaines.
Tout à fait, à Marrakech. Donc, il y a eu un périple incroyable, une organisation vraiment au top, je dois dire. On est arrivé à Casablanca, on est allé à Rabat, et puis après, on a terminé le forum, ce premier forum, cette première édition à Marrakech, et je dois dire que c'était incroyable, inattendu. Donc historique, c'est quand même un pays africain, hein, le Maroc, mais aussi un pays arabe. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude que les pays arabes soient aussi présents sur la scène africaine. Donc il y a une vraie ouverture, on a bien vu avec les déplacements du roi du Maroc, Mohamed VI, dernièrement.
Qui était en Côte d'Ivoire. Hein,
tout à fait, tout à fait. Mais ce qui est improbable et incroyable, c'est qu'en fait, tout le monde s'y met. Ce n'est pas qu'une décision politique, parce que là, ce premier forum, cette première édition a été organisée par le groupe 2M, télévision et radio. Et apparemment, ils apprennent de toutes les expériences. L'idée a germé à la dernière COP22 en novembre à Marrakech, où plusieurs journalistes internationaux étaient invités à venir partager leurs expériences sur les plateaux de 2M. Et apparemment, une journaliste togolaise disait finalement, au Maroc, les Africains, les journalistes africains ne se connaissaient pas. Et à juste titre, parce que, surtout les journalistes femmes. Et donc, Fatia Elaouni, qui est responsable de l'antenne et rédactrice en chef de 2M Radio, elle s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire. Et comme elle est très, elle est féministe à fond, et elle s'est dit, on va en parler. Ils ont un bureau, un comité de la parité également. La directrice de ce bureau, c'est aussi la directrice financière du groupe. Et ils ont fait naître ce premier forum. Et je dois dire, elle s'appelle Khadija Boujanaoui. Et le directeur du groupe, 2M, est aussi très féministe. Et donc, c'est comme ça que ça a été lancé.
Ceci dit, moi, j'ai lu quelques papiers sur le sujet. On a entendu Aïcha Akalaï, qui est directrice de l'hebdo Tel Quel, un hebdomadaire très connu au Maroc, qui racontait qu'un interlote lui écrivait ce message. Je lis vos édito, madame, c'est vous qui les écrivez. C'est sympa l'ambiance. Hein.
Oui, mais oui, bien sûr.
Aïcha Kalaï, qui a été l'une de nos toutes premières tchatcheuses, et on est très fière qu'elle dirige maintenant un tel média. C'est un sujet très nouveau, et parce que les femmes sont aussi quand même assez minoritaires encore dans la profession du journalisme sur le continent
africain.
Alors,
ce qu'il y a, Emmanuel, c'est qu'en vérité, en tant que femme journaliste, on parle très peu de nous. Finalement, puisque nous parlons des sujets qui sont exposés, nous informons les gens. Sauf que le constat est clair, il y a des problèmes, des inégalités salariales, des inégalités face
surtout,
aux formations.
Surtout, Safi Luna, justement, qu'est-ce que vous en pensez? Alors,
côté salaire, oui, j'aimerais bien laisser Samira terminer pour ensuite réagir, mais côté salaire,
non, mais vas-y.
Ça va pas du tout.
Vous parlez de quel pays? Du Mali?
Du Mali, oui, parce qu'on se dit souvent, la femme, elle n'est pas chef de famille. Mmh. Elle a un mari qui prend la famille en charge.
Wow.
Or, le plus souvent, c'est la femme
un petit boulot pour s'amuser, c'est
ça. Voilà. Comme on le dit, c'est la femme qui complète les prix de condiments, c'est-à-dire que c'est elle qui prend carrément en charge la popote. Mmh. Quand les enfants ont besoin de pulls, de chaussettes, maman, j'ai envie de sortir pour aller prendre un goût. un goûter, excusez-moi. C'est tout le temps la maman qui doit faire ça. Mais pourtant, quand la femme va au boulot, et à la fin du mois, elle n'a pas vraiment le même salaire.
Mais c'est intéressant ce que dit sa fille, parce que j'ai juste envie de dire qu'en France aussi, moi je me souviens qu'un homme journaliste me racontait que lorsqu'il parlait de son salaire avant d'intégrer une nouvelle rédaction, on lui disait « Oui, mais ta femme travaille. » Et tu sais, il y a une très bonne mutuelle, donc ta femme travaille. Donc c'est quand même hallucinant. Donc le constat est le même à travers tous les pays.
Ta femme travaille, donc vous vous aidez mutuellement.
Pour toutes les femmes journalistes. Mais il y a des particularités. On se rend compte par exemple qu'en Guinée-Conakry, finalement, être journaliste n'est pas bien perçu quand vous sortez la nuit, quand vous interviewez des gens. On a parlé de harcèlement également. En fait, on s'est rendu compte...
Vous avez abordé tous les vrais problèmes.
Tous les vrais problèmes qu'on ne se connaissait pas, et les problèmes aussi de formation et l'accès aux femmes à des postes de responsabilité dans les médias. Et ce qui est intéressant à travers cette première édition, c'est que apparemment, on ne s'arrête pas là. Il va y avoir un réseau d'informations, mais aussi... Ouais.
Avec des objectifs aussi.
Des objectifs.
Plus de femmes journalistes, plus de femmes qui dirigent des médias.
Exactement,
notamment.
Tout à fait.
Et puis dénoncer le harcèlement, assurer la sécurité de ces femmes. Et ben moi, j'en profite pour lancer un petit appel, parce que chaque fois qu'on a le rendez-vous des chatcheuses, on dit aux femmes qui sont journalistes dans leur pays, et a fortiori sur le continent africain, appelez-nous pour...
Là, on a le réseau des panafricaines, on va pouvoir s'appuyer sur les panafricaines.
Exactement. Vous aussi, vous avez la parole, c'est le moment de nous appeler justement, les filles. 33 1 84 22 71 71, dans quelques instants, vous avez la parole.
Allez les panafricaines, appelez-nous.
C'est une très bonne chanson, Mambo na ma d'Aimé Arosena, chez 7 milliards de voisins. Très bon petit programme. Je redonne le numéro de téléphone pour les panafricaines qui souhaiteraient se joindre au club des tchatcheuses. Si vous êtes une femme journaliste sur le continent africain, vous nous appelez bien sûr au 33 1 84 22 71 71 pour un coup de gueule, pour un coup de cœur. Et on donne la parole maintenant à Safi Luna de la rédaction Mandingue de RFI. Vous souhaitiez revenir sur ce buzz, ce petit buzz de cette vidéo Robert Kelly, professeur de sciences politiques, spécialiste de la Corée du Sud, qui est interrompu en fait en pleine interview sur la BBC par ses enfants. Il est dans son bureau et on le voit, on entend plutôt et on voit à l'image tout de même quelque chose d'assez surprenant, des enfants qui viennent déranger leur père en pleine interview.
Scandals happen all the time. The question is how do democracies respond to those scandals?
And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change?
I would be surprised if they do. Pardon me.
That's right.
My apologies.
Voilà. Robert Kelly, légèrement déconcentré. Le présentateur lui dit, je crois qu'un de vos enfants vient d'entrer, une petite fille, puis ensuite un bébé, puis sa femme paniquée qui se casse la figure. Alors évidemment, on aurait pu croire à un gag, mais c'est la vérité. Et ça a déclenché derrière toute une polémique.
Une polémique, ouais, parce qu'au début, les gens pensaient que la femme du monsieur, la dame qui a fait irruption dans la salle, qui est coréenne, était la nounou. Et personnellement, je pense que ça fait un peu bizarre de penser qu'une dame qui vient chercher les enfants, on a d'abord pensé que les enfants du monsieur, c'est bien ses enfants, oui, c'est bien ses enfants, mais une dame qui débarque, on dit non, elle n'a pas les mêmes traits de visage que le monsieur, donc c'est pas sa femme. Je pense que ce serait un peu raciste de se dire un Américain n'a pas le droit d'épouser une Coréenne, ou ça fait bizarre de voir une Coréenne qui épouse un Américain, ou un Africain qui épouse un Européen, ou quelque chose comme ça.
Il y a quelques années, il y avait une femme qui avait publié une tribune intitulée « Non, je ne suis pas la nounou, juste une maman noire, merci ». Il y a eu des polémiques du même
type. Et justement, ça me rappelle un film qui est sorti tout récemment, un film français qui s'appelle « Il a presque tes yeux ». Enfin, je ne me souviens plus du titre exact, mais c'est un couple africain, Aïssa Maïga, qui essaie d'adopter un bébé parce qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Donc, ils essaient d'adopter un bébé et il se trouve qu'ils tombent sur un bébé blanc. Et la femme qui devait leur donner le bébé, l'autorisation d'adopter le bébé, c'était une Française et elle n'a pas du tout supporté. Elle se dit non, d'habitude, c'est le contraire. C'est-à-dire les Blancs qui adoptent des bébés noirs, mais pas des Noirs qui adoptent des bébés.
Alors vous retenez la polémique finalement sur le c'est du racisme.
Peu, oui,
c'est
moi,
ça.
Je trouve
mais
ça
pas la polémique sur drôle, monsieur donne des interviews pendant que maman s'occupe des enfants.
Je ne vois pas ça sur ce côté, d'autant plus que le monsieur, il est dans une autre interview, il est intervenu pour dire que sa femme suivait l'interview dans la pièce d'à côté avec ses enfants. Et il dit que les enfants ont reconnu la pièce et c'est pourquoi ils sont partis dans le bureau, en fait.
Mais parce qu'il y a eu aussi il y a eu plusieurs vidéos de féministes qui ont parodié la scène, hein, notamment l'émission néo-zélandaise Jono and Ben, où il y a l'experte est une femme qui donne une interview et qu'au moment qu'elle livre ses analyses politiques, elle prend sa fille sur ses genoux, elle donne le biberon, elle repasse, elle nettoie les toilettes. Donc la vidéo est très drôle, très loufoque. Et ça, juste pour montrer que les femmes, elles, ont une capacité à faire plusieurs choses en même temps.
Exactement. Hein, multi-cerveau. Alors, je suis féministe, mais je ne prendrai pas cette image dans ce sens, d'autant plus qu'il se peut, je ne connais pas les décalages horaires, il se peut que cette interview ait été faite à un moment où la femme était déjà à la maison, elle n'était plus au travail, elle est peut-être rentrée à la maison et ça va de soi qu'elle soit avec ses enfants. J'avais pas vu sous cet angle, en tout cas, personnellement.
Ouais. Bon, enfin, en tout cas, moi je pense que c'est pour ça qu'il faut donner la parole à plus de femmes expertes.
Exactement.
Parce que ça n'arriverait
parce
pas.
Parce qu'elles
finalement.
Savent tout gérer.
Voilà, exactement, ça serait parfaitement géré. Et d'ailleurs, maintenant,
on a des annuaires. Elle a bien géré les enfants qui ont fait irruption dans le bureau.
Exactement, on a des annuaires à notre disposition maintenant, notamment l'annuaire des experts
tout à fait.
De France 24.
Et les panafricaines y travaillent aussi.
Exactement, pour interviewer des femmes tout aussi spécialistes du sujet, et histoire qu'on ne voit pas que des hommes à l'antenne parmi les experts. Vous restez avec nous les tchatcheuses, de quoi allons-nous parler en deuxième partie d'émission? Anna, vous nous parlerez d'une étonnante initiative de garde du corps pour protéger des femmes victimes de violences. Safi, vous revenez de quelques jours de congé chez vous à Bamako et je crois qu'il y a un truc qui vous énerve.
Ouais.
C'est l'état de la ville. Ouais. On en parlera en deuxième partie d'émission. On parlera aussi d'Ivanka Trump, la fille du président qui emménage à la Maison Blanche. Je crois que ça vous inspire, les filles. Et puis, Samira voulait absolument nous parler d'Angelina Jolie en meeting avec l'archevêque de Canterbury. Voilà, vous restez avec nous, on rend l'antenne pour le flash et on se retrouve dans un peu plus de 3 minutes chez 7 milliards de voisins, c'est le rendez-vous des tchatcheuses. Et bien sûr pour les panafricaines qui nous écoutent depuis le début de l'émission, c'est-à-dire des femmes journalistes du continent africain, vous pouvez tout à fait nous appeler au 33 1 84 22 71 71. À tout de suite, restez avec nous.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Yeah. Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. C'est le rendez-vous des tchatcheuses aujourd'hui. Si vous prenez RFI en cours de route, c'est-à-dire que trois femmes chaque mois sont de passage dans le studio parce qu'elles sont journalistes de trois pays différents. Aujourd'hui, je reçois Ana Navarro Pedro de l'hebdomadaire portugais Visao, Samira Ibrahim de Radio Monte Carlo d'Oualia et Safi Luna, journaliste malienne à la rédaction Mandingue. Et puis un reportage en fin d'émission d'Alice Milo sur l'excision, évidemment sujet à débattre avec vous, mesdames. Ana Navarro Pedro, vous revenez sur une étonnante initiative peu connue en Espagne, une entreprise en fait qui s'est montée de garde du corps pour protéger des femmes victimes de violences.
Tout à fait, montée par une femme garde du corps elle-même du temps du terrorisme basque, c'est-à-dire jusqu'en 2011, qui faisait la protection rapprochée des cibles des terroristes basques. Donc c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle et ce qu'elle fait. Et elle a monté cette association dans un pays quand même qui a été précurseur dans la lutte contre les violences faites aux femmes. En 2004, il y a eu tellement de femmes tuées en Espagne par leurs compagnons, conjoints, 71. Je sais que des chiffres depuis qu'on a vu en
2014,
Russie,
134 femmes assassinées par leurs compagnons, ex-compagnons.
Ils ont appliqué des lois, ils ont mis en place des numéros de téléphone spéciaux, ils ont formé des magistrats, ils ont eu des programmes
policiers,
de protection, des policiers, etc. Eh bien, quand même, ça continue. Et donc, cette femme s'est dit, il y a quelque chose à faire là-dedans. Elle a créé cette association qui est à but non lucratif. Et pourquoi ? Parce qu'elle dit que cette loi de 2004 oblige l'État à payer les dépenses. Ça, c'est très intéressant.
Donc que pour les femmes, le service n'est pas payant ?
N'est pas payant pour les femmes. Et c'est un projet qui est très intelligemment monté, parce que c'est comme ça, c'est à travers... L'association s'appelle EDEM, et ça veut dire une association basque, parce que c'est dans le pays basque d'abord qu'elle est en projet pilote, de protection, de détection et protection des femmes maltraitées. Et donc, ça, en réseau avec d'autres associations de femmes, dès qu'il y a une détection d'une femme qui est maltraitée, on n'attend pas qu'elle passe par tout le processus de plainte, etc. Elles vont tout de suite les protéger. Et en les protégeant de la sorte, le processus de plainte et de protection mis en place par l'État devient beaucoup plus efficace.
Parce qu'on dit souvent, les femmes ne parlent pas, ne dénoncent pas, mais en Espagne, j'ai retrouvé ce chiffre assez étonnant. En 2016, plus de 40% des femmes mortes de violences conjugales, donc assassinées par leur conjoint, avaient dénoncé leur conjoint et agresseur. Preuve que le système ne les protège pas, en fait.
Et donc, ça, c'est le deuxième volet de cette association. C'est en cela que ce projet est extra et qu'il pourrait être repris partout ailleurs. Parce que deuxième volet, c'est de détecter quelles sont les failles du système mis en place, qui a été... C'est un système, rappelons-le, qui a été repris par la France, par l'Angleterre, par l'Italie, tellement il était novateur. Eh bien, il a tellement de failles, de lacunes, comme vous venez de le dire. Eh bien, le deuxième objectif, c'est de détecter ces failles, de les analyser et de les soumettre aux autorités pour pouvoir y pallier.
Bon, et donc, les gardes du corps sont des femmes ou des hommes ?
Ce n'est pas obligatoirement des femmes. Elles sont à 98% des femmes pour l'instant. Des hommes peuvent être candidats, mais il sera d'abord vérifié leur empathie vis-à-vis des souffrances des femmes.
Ouais, bon, formidable comme initiative. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, je suis là avec toi. Ouais, que ça soit à 98% des femmes déjà. Entre femmes, on peut se comprendre. Entre femmes, on a de la compassion, mais un homme qui doit protéger une femme contre un autre homme.
Ça devient compliqué pour vous.
Il va se dire, il se trouve que tu as fait quelque chose de mal, toi. Donc, ce
n'est
pas.
Non, moi, je n'ai pas de problème, honnêtement. L'essentiel, c'est faire cause commune. Et là, il faut plutôt aller voir l'antécédent, en fait, voir si ces hommes sont vraiment dignes de confiance et qu'ils ne maltraitent pas eux-mêmes leurs femmes. En revanche, je trouve, et à chaque fois qu'on en parle, ce sont les femmes qui montent des initiatives. Et c'est vrai. Et c'est ça qui va changer la donne. En fait, les constats, on le fait toujours. Mais les seules qui vont changer la donne et qui vont faire avancer les choses, ce sont les femmes, parce que c'est elles qui doivent trouver des solutions, en fait. Et après, demander de l'aide aux pouvoirs gouvernementaux. Mais c'est vrai que la société civile...
Là, ils ne donnent même pas le choix au gouvernement. Ouais. Ils ont
mais
bien
étudié cette loi. Rien ne peut se faire sans l'appui politique. Hein,
absolument.
Des sujets
rien ne peut se faire, mais déjà, la décision politique, elle est là, et date longtemps, et date il y a 13 ans. Et puis, c'est vrai que nous sommes dans une phase de notre civilisation, dans ce siècle, où il y a vraiment à nouveau une investie énorme contre les femmes partout dans le monde.
Ah oui.
L'autre jour, très brève parenthèse, je regardais une photo des États-Unis, Maison Blanche, le comité qui décide de la congé maternité des femmes aux États-Unis. Il n'y a que des hommes blancs et vieux qui vont en décider. Et vous voyez, les décisions qui ont été mises sur la table ne sont pas les
meilleures. La condition des femmes progresse, mais effectivement, ça suscite quelques grincements de dents tout de même dans le monde. Merci pour cette initiative, en tout cas, de nous avoir fait partager cette initiative à la Navarro.
C'est normal, Emmanuel, en fait. Les femmes, elles ne se sont pas levées un beau matin et on leur a donné plus de droits. Ce sont elles qui se sont battues. Elles se sont battues pour pouvoir voter, pour exister, pour donner la vie ou pas. Et évidemment, malheureusement, on aimerait que ce soit
la route est encore longue,
mais,
on
oui,
va
la
dire.
Route est encore longue.
Safi Louna, alors vous revenez de quelques jours de congé chez vous, oui. C'est-à-dire à Bamako,
oui.
Et il y a un truc qui vous énerve. La saleté de la ville.
L'état de propriété de la ville. J'ai remarqué que ça dérange absolument personne, étant dans les bus en commun.
Vous avez décidé de faire la toubab aujourd'hui, c'est ça,
oui.
Safi?
J'ai décidé de faire la toubab. J'ai l'impression que ça dérange personne d'être dans les sotramas. Les sotramas, c'est les minibus, les transports en commun. De sa sotrama, de balancer un papier par la fenêtre, un sachet d'eau, un bout de Kleenex, quoi que ce soit.
Alors, je vous rassure, il y a quelques années, il n'y a vraiment pas si longtemps encore sur l'autoroute en France, c'était très courant de voir cela. Beaucoup plus rare aujourd'hui, mais c'était très courant.
Mais moi, je pense qu'avec la campagne que, je ne dirais même pas le gouvernement, ce que le gouvernement mène, les municipalités sont en train de mettre les moyens. Je ne dirais pas que je vais me mettre à défendre le gouvernement ou les municipalités, mais avec les campagnes de sensibilisation qu'il y a eu, les millions qui ont été déboursés, déjà la ville...
Pour la collecte, pour le traitement
pour la
des
collecte,
déchets aussi.
Oui. Pour que la ville soit vraiment propre. Au début, il y avait un opérateur marocain qui est venu. Les Maliens n'ont pas voulu. Mais quand ils ont vu l'effort fourni par cette société, ils ont finalement accepté et on voulait les aider, au fait. Mais c'était peine perdue. Un moment, un mois, deux mois après, tout le monde s'est remis avec les anciennes habitudes. On jette où on veut, quand on veut. Et gare à celui ou celle qui dit à la personne, tiens, il y a juste une poubelle à côté, tu te prends pour une toubab ou quoi?
Alors justement, est-ce qu'il y a
non,
cette
mais très
poubelle,
honnêtement, il n'y a pas de
il y a des poubelles.
Non,
il y a des poubelles, mais
autant
dépend,
de poubelles que dans une ville urbaine.
Ça dépend des lieux. Ça dépend des lieux. Sur la voie publique, par exemple, sur l'autoroute, il n'y a pas de poubelle. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais dans les parcs...
Il n'y en a pas non plus
si,
en Europe.
Dans
hein,
les parcs,
des poubelles
si,
sur les autoroutes, ça n'existe pas. On n'est pas censé s'arrêter. Donc effectivement.
On n'est pas censé s'arrêter.
Est-ce
mais
qu'il y a
bord
des campagnes de sensibilisation?
Il y a des campagnes de sensibilisation. J'ai été témoin cette
bah
fois-ci.
Alors, les
à
amis, qu'est-ce que vous attendez?
Alors, est-ce qu'il y a des
j'ai
amendes
été témoin.
Si on jette
ah non, il
n'y
a pas d'amende.
Ah bah voilà.
Il n'y a pas d'amende.
Il
n'y
a pas la part des gendarmes.
Non, mais
il y a encore
et ce qui m'étonne, c'est que le matin, chaque femme de chaque concession balaie devant sa maison. Mais on ne peut pas dire aux enfants, non, ne jetez pas d'ordures devant la maison d'autrui ou dans la rue.
Donc vous voulez dire, il n'y a pas de notion d'espace public,
voilà.
De bien commun.
En fait, on prend soin de chez nous. Mais on ne prend pas soin de tout ce qui est public.
Pour vous, c'est
alors
uniquement un problème de citoyenneté. Ce n'est pas un problème d'engagement de municipalité.
La municipalité, je pense que la municipalité aussi a son rôle. La municipalité, au moment des périodes hivernales, par exemple, ils décident de curer les caniveaux. Mais eux aussi, ils ne font pas.
Il y a eu un énorme
ne
ménage
pas jusqu'à la
à
fin,
l'occasion
en fait.
Du sommet Afrique-France. Hein. J'étais sur place.
Les caniveaux sont culés et déposés juste au bord. Hein. Et après, ça redescend dedans. Donc, on n'a vraiment pas bougé de là. Quoi.
Donc, il faut plus d'événements, peut-être, alors, internationaux. Et...
D'accord, on va essayer d'organiser
alors,
chaque trois mois.
Mais c'est intéressant, Safi, parce que moi, j'avais noté ça en Égypte. Alors, les gens en Égypte, alors, ils adorent hein, leur pays, évidemment. Hein, pays millénaire, les pharaons. Été leurs ancêtres et ils adorent ce pays et en même temps alors ils vont vous dire ah moi mon pays je serais prêt à mourir et puis pour l'Égypte et en même temps vous les voyez justement
jeter des ordures.
Comment est-ce possible? Et je pense qu'il y a un problème de sensibilisation parce que les gens ne s'en rendent pas compte quoi. Voilà. Comment est-ce qu'on peut aimer son pays?
Solution, il faut vraiment de la coercition.
Mais
il
la
faut
campagne
des amendes.
De sensibilisation à Bamako, il y en a des panneaux publicitaires, des spots télé, des spots radio, j'en ai vu. Et j'en ai écouté, donc je
et
ne peux pas
tout le monde s'en fout, c'est ce que vous voulez dire.
J'ai l'impression.
Il faut la coercition, il faut le danger, la menace d'une amende, et puis l'éducation des enfants à l'école.
La menace d'une amende surtout.
Alors, parce à Paris, que... sur les déjections canines, ça a été quand même assez radical. Hein. Ça venait des États-Unis, c'est-à-dire les amendes et obligation de ramasser les déjections canines.
En Angleterre, à Londres, première fois que je suis allée à Londres, des amendes terribles si vous mettez des trucs par terre. Donc voilà, la peur,
c'est là. Toucher au porte-monnaie.
Bamako, 2 millions d'habitants, c'est ça à peu près?
À peu près, oui.
Le combat est encore long.
Très. très lent.
C'était le coup de gueule de sa fille. Luna, Ana Navarro-Pedro, vous souhaitez revenir sur Ivanka Trump, la fille du président, qui emménage à la Maison Blanche. Elle a 35 ans, donc elle n'a plus vraiment besoin de son papa et encore moins de sa belle-mère, Melania.
C'est la crise.
Que vous inspire cette crise du logement chez les Trump? La fille emménage chez le père.
Bon, en fait, elle emménage dans le creuset du pouvoir, au cœur du pouvoir américain, et donc au cœur du pouvoir du monde, c'est-à-dire dans un West Wing. Elle a un bureau maintenant, désormais, à côté du Oval Office, donc le bureau ovale du président de la République, président des États-Unis, pardon. Et le problème, c'est qu'elle va avoir un poste, elle ne sera pas payée.
Elle n'a pas de fonction officielle.
Elle n'a pas de fonction officielle, ni de titre. Elle n'aura pas à prêter serment, donc elle n'est pas, on ne pourra pas lui exiger des comptes. Et en même temps, elle aura ce que les Anglais appellent « security clearance », que les Français n'ont pas encore traduit en français, mais qu'on peut dire un feu vert de sécurité, si vous voulez, pouvoir avoir accès aux documents les plus
sensibles. À des documents classifiés.
Ouais. Classifiés de la sécurité américaine, et donc du monde. Et c'est une femme qui est la fille de son père. Je ne reviendrai pas sur les blagues qu'il y a aux États-Unis sur la relation spéciale de ce père avec cette fille.
Mmh. Non, mais toute la question, c'est quelle est l'influence qu'elle aura sur le président, sur son père.
Quelle influence elle aura sur son père?
Quel est votre point de vue là-dessus?
Je ne crois pas. Alors, il y a une bagarre en ce moment à la Maison Blanche entre ce qu'on appelle les New Yorkais, c'est-à-dire Ivanka Trump, son mari, qui, n'oublions pas, est un conseiller spécial du président, mais lui au moins a un titre, au moins lui il a dû prêter serment, et au moins lui il y a un code éthique à suivre, et un économiste, le conseiller économique. Ça, on les appelle les New Yorkais. Ils sont plus modérés que les nationalistes qui sont avec Steve Bannon et Priebus, et qui sont vraiment l'extrême droite fascisante des États-Unis, ségrégationniste, raciste, etc. Et donc, c'est au nom de cette lutte qu'on doit avoir son entrée à la Maison Blanche. Et c'est pour cela que les gens disent qu'elle va avoir peut-être une influence positive sur son père. Le problème est aussi éthique, c'est que c'est une fille qui va avoir accès à des informations classifiées alors qu'elle dirigeait jusqu'à très peu de temps une des entreprises Trump, qu'elle a été mêlée à des affaires, elle a été la protagoniste d'affaires, comme par exemple au Kazakhstan, la construction d'un hôtel, qui laisse beaucoup à désirer sur le plan éthique. Je vous laisse lire ça dans la presse, mais vous verrez que c'est extrêmement préoccupant, que ses frères et sœurs, qui dirigent maintenant certaines affaires du père, et ça, la sienne propre.
Vous ne croyez pas
des gens
une influence qui pourrait freiner certaines dérives? Vous ne croyez pas une influence positive, finalement?
Je pense qu'il y aura une grande bataille au sein de la Maison Blanche entre les deux camps dont je viens de vous parler, qu'elle a déjà. Steve Bannon a réussi à creuser un fossé entre le père et la fille parce qu'ils elle était en vacances un week-end avec son mari, alors que la loi sur la santé aux États-Unis a été vaincue, elle a été vraiment manquée à plate couture. Donc, il va y avoir une bataille terrible au sein de cette administration, et je ne pense pas qu'elle pourra avoir une influence plus grande que celle de Steve Bannon. Steve Bannon est vraiment un Rasputin très dangereux et très, très influent.
Tout ça est quand même très hallucinant. Enfin, le système démocratique est vraiment mis à mal. Là, c'est la génération Tanguy, elle n'a pas de problème d'argent, elle peut.
Non, mais attendez, elle ne vit pas à la Maison Blanche, elle a une mansion, elle a une maison énorme à Washington avec son mari, etc.
Oui, mais avoir cet accès-là, alors qu'elle n'a pas de poste
c'est
officiel.
C'est pire que cela, c'est du népotisme, c'est la fin de la démocratie, c'est ça, nous l'entendons.
Il n'y a pas que les Karim Ouad au Sénégal ou des Karim Keita au Mali ou encore des Théodorin Obiang-Nguema.
C'est ça.
C'est un peu partout, au fait. Il n'y a pas que aussi des François Fillon. Ouais, c'est universel.
Non, mais en plus, c'est assumé, là. Là, c'est ce qui est nouveau et ce qui est assez
C'est une mode,
horrible,
7 milliards de voisins.
Et le problème, c'est que ça va assumer. Excuser tous les autres dérives dans tous les autres pays. C'est pour ça que je dis, ça va au-delà de tout ça. Pour moi, c'est vraiment un thème de science politique à étudier très rapidement.
Samira Ibrahim, vous souhaitiez revenir sur l'actrice Angelina Jolie, qui est extrêmement populaire, aussi belle qu'intelligente, en meeting tout récemment avec l'archevêque de Canterbury. Canterbury.
Justin Welby, ouais. Exactement. Il y a quelques semaines de cela, elle l'a rencontré dans un cadre quand même assez solennel. C'était intéressant de voir. Alors ça, c'est un petit peu la touche glamour aujourd'hui. Angelina Jolie, effectivement, aussi belle qu'intelligente et puis dévouée à la cause puisqu'elle est très, très engagée auprès de l'ONU. Alors, cette rencontre devait se faire pour parler de la crise du Soudan, mais aussi d'autres sujets et notamment des violences faites aux femmes et sûrement aussi des violences sexuelles faites aux femmes. Alors, tout s'est très bien passé, seulement la photo qui a été prise pour rendre compte de cette rencontre a fait un tollé sur Internet. Pas pour les sujets évoqués, bizarrement, mais pour la tenue d'Angelina Jolie, qui, les gens pensent, trouvaient, en tout cas que son pull, voilà, est pointé. Donc sa poitrine était belle et pointée, et donc elle ne portait pas, oh là là, de soutien-gorge. Donc là, le constat a été fait à l'unanimité, mais comment peut-elle aller rencontrer un archevêque et ne pas porter de soutien-gorge? Alors, évidemment, de son côté, l'Église n'a pas voulu commenter. Mais moi, ce qui m'a un peu étonnée, c'est que je me suis dit, mais dis donc, tous les gens à travers leur poste, leur ordinateur, sont tous barbus ou quoi? Que se passe-t-il? Même en Europe, même outre-Manche, enfin, que se passe-t-il? Donc, en fait, on montre du doigt, comme tu le dis si bien, Safi, les islamistes dans les pays musulmans, bon, on se dit, ils sont un peu arriérés, ils ne comprennent pas. Mais même chez nous, les gens qui vont à l'école. L'école chez nous est obligatoire. Aux États-Unis, quand même, les gens sont lettrés. Enfin bon, on se dit, ils sont plus évolués. Ils regardent des clips de rap toute la journée où les nanas sont à moitié à poil. Et là, ils en ont rien à faire de ce qu'Angelina Jolie fait.
C'est pour te dire, Samira, qu'un homme reste sur un homme, sa sensibilité.
Mais il y a des femmes comme ça.
Non, non, mais
il y a des femmes qui ont commenté. Il n'y a pas que des hommes. Parce que là aussi, c'est toujours, on dit, les femmes, et elles sont encore plus responsables, je trouve. Comment commenter? Alors, on n'a pas le droit de ne pas porter de soutien-gorge. D'ailleurs, il y a des études qui disent que les femmes devraient arrêter d'en porter. Alors, je pense que...
L'étude australienne, notamment.
On va lancer beaucoup de choses.
Précisons qu'Angelina Jolie a par ailleurs publiquement, c'était il y a 3 ans, parlé de sa double mastectomie, ablation des deux seins à cause d'un cancer, et qui avait été tout de même d'un courage incroyable pour le sexe symbole qu'elle était.
Donc personne n'a parlé d'une reconstitution qui donnerait espoir aux femmes qui ont un cancer, d'avoir à nouveau... Voilà.
On est en 2017,
on a critiqué moralement. Horrible.
On est en 2017 et on parle encore de tout ça, et même en Europe et même dans les pays les plus évolués.
Que vous dis-je, il y a une investie moraliste terrible.
Cessez de regarder les seins d'Angelina Jolie et occupez-vous
de ce dont elle parle. Et profitez-en, enfin je sais pas quoi, mais...
Vous restez avec nous, mesdames les tchatcheuses. Juste après Blitz the Ambassador, on parlera de l'excision. Et c'est intéressant parce que ce sont des lycéennes qui se mobilisent en France. Tell me how you doing. Hello, 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 Africa. Tell me how you doing. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, Africa. Tell me how you doing. Hello, 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 Africa. Tell me how you doing. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Just touched down. ECOWAS passport. Internationally known, I give them what they ask for. For my cross city, all the way out of Marrakesh. Yelling marhaban, shokran, hella fresh. Out of Kigali, Murakosi. I'ma lick a shot for my people out in Josie. Clip time, I born Ang Santin. Bumping Huey Masekela, killing while we stunting. Young or deaf, man, get feet ballin' in the car. Cruising shit, Kanta Diop, highway to Accra. Ugali, chapati, we party in Nairobi. All across the continent, you know my people know me. Karma against us, and you bound to get crushed. Tell him avec un soutien-gorge, hein? 24-7, steady on the grind. Worldwide Africans, bound to blow your mind. Hello, Africa. Tell me how you doing. Hello, 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 Africa. Tell me how you doing. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Parler de l'excision, c'est le défi que s'est lancé cette année une classe de seconde du lycée Jacques Feder à Épinay-sur-Seine. C'est en Seine-Saint-Denis. des adolescentes qui parlent aux adolescentes. C'est l'idée de leur blog parlonsexcision.wordpress.com, un blog donc qui a pour objectif d'alerter sur cette pratique qui concerne 60 000 femmes en France. Un blog réalisé avec l'aide de leurs professeurs qui a été mis en ligne au même moment que le lancement d'une grande campagne nationale de lutte contre l'excision. Alice, Sokona, Angie, toutes les trois sont donc lycéennes, et Jennifer Razanadrakoto, leur professeur de mathématiques, raconte comment tout cela a commencé. C'est au micro d'Alice Milo.
Bah en fait, c'était un jour, on revenait de vacances de la Toussaint, et il y a une dame d'une association qui est venue, et elle nous a expliqué le rôle de l'excision. Bah, ça nous a fait un gros choc, parce que excision, pour nous, ce mot-là, il était inconnu jusqu'à ce jour-là. Les hommes qui pratiquaient l'excision et tout, ils disaient que pour la femme, soit fidèle. Mais la femme, elle peut toujours être fidèle sans lui retirer le clitoris. Franchement, c'est quelque chose de barbare, de criminel. Les personnes comme ça, il faut les enfermer. Hein. Ce n'est pas des personnes nettes dans leur tête.
Ici en France, on est super loin de ces problématiques d'excision. Pourquoi est-ce que du coup, ce sujet vous a concerné alors que quelque part, bah, c'est très très loin de vous, quoi ?
Non, ce n'est pas vraiment loin, parce qu'on peut se dire que peut-être nos mères ont été excisées, nos cousines, nos tantes. Enfin, ce n'est pas nous directement. Mais ça touche parfois des personnes de notre famille, de notre entourage, de notre classe.
Vous avez souvent pendant les vacances, vous retournez dans vos pays avec vos parents ?
Oui, moi, mon dernier voyage, c'était l'année dernière. Mais j'étais partie avec ma grand-mère et mes tantes, mais on n'en a pas parlé de l'excision, franchement, c'était des vacances comme d'habitude. Hein.
Est-ce que le fait d'avoir fait ce blog, ça t'a donné le courage d'en parler avec ta famille ?
Ah non, pour l'instant, ce sujet-là, il est tabou encore pour moi. J'en ai jamais parlé avec ma mère, ni avec mes deux sœurs, sinon... enfin, ouais, surtout avec ma mère, lui dire « Maman, t'as déjà été excisée » ou soit ma cousine, à ma sœur, je me vois pas en fait.
Alors du coup, vous êtes l'enseignante qui avait été en charge de ce projet de blog.
C'est ça, en Seine-Saint-Denis. Beaucoup des enfants qu'on a dans les établissements ont des parents originaires d'Afrique, du Maghreb, d'Asie aussi. Et donc, même si eux sont français et qu'on est dans un lycée français, c'est leur culture en fait, c'est une partie de leur histoire.
Potentiellement, ça pourrait arriver à vos élèves.
Oui, ça, c'est déjà arrivé. Alors déjà, il faut savoir que très très peu de femmes se font exciser sur le territoire français, parce que c'est un crime qui est puni par la loi. Sur le continent africain, c'est vrai qu'il y a des fillettes qui se font exciser, donc entre 5 et 7 ans. Dans la petite enfance, en France, c'est pas une problématique parce qu'il y a un suivi pédiatrique. Et donc du coup, il y a un certain contrôle, entre guillemets, de la santé de ces jeunes filles. Donc du coup, l'excision a été reportée. Entre 12 et 18 ans, quand les jeunes filles partent en vacances dans les pays d'origine de leurs parents, ben souvent elles sont excisées pendant ces 2 mois d'été, donc sous couvert souvent d'une grande fête, ça va être génial, tu vas y avoir plein de monde, machin, et ben du coup elles se font exciser là-bas. Mais en même temps, maintenant que je sais qu'elles savent de quoi on parle, si jamais un jour une de leurs proches, amies, sœurs, soit en danger ou elles-mêmes, et ben parce qu'on en a déjà parlé, elles sauront comment réagir, je pense.
Et vous pensez que ce blog, il va permettre à des filles de se protéger ?
Sur le site, il y a carrément des questions où tu peux voir si tu es en danger ou pas. Si tes parents disent qu'on va faire un voyage, tu auras une belle robe, des détails comme ça, sur excision, parlons-en, et ben, tu peux savoir si tu es un cas à risque ou pas.
Réaction. Ah ben, Samira,
moi c'est la colère et souvent c'est pour ça que je dis que c'est les femmes qui doivent changer la donne, parce que ce sont souvent les femmes, les tantes, les grand-mères qui emmènent les jeunes filles se faire exciser. Ce sont pas les hommes, ce sont les femmes. Et je trouve que c'est honteux aujourd'hui. Alors on veut tous accéder à la modernité, on achète la dernière voiture, on va avoir la plus belle maison, la plus grande maison. Sauf que la modernité, c'est aussi exciser son enfant.
Ouais,
non, c'est pas possible. Donc c'est à deux vitesses. Donc c'est pas possible. C'est vrai que c'est.
Mais c'est ce
c'est
poids,
violent,
c'est ce poids de culture culturelle, cette notion que si une femme n'est pas excisée, elle est forcément une femme de mauvaise vie, quoi.
Il y a tellement de filles qui ne sont plus vierges avant le mariage, elles se font restituer l'hymen juste pour le nom, pour dire qu'elles étaient vierges, alors qu'elles sont excisées, elles font du grand n'importe quoi. Moi je connais un cas personnel, la fille a été excisée par sa tante sans l'aval de ses deux parents. Mais c'est un cas un peu personnel. Le jour où je l'ai su, j'étais tellement énervée. J'en voulais à moi à la tante à question, en fait. Mais c'était déjà trop tard, quoi.
L'idée d'un blog en France pour concerner des lycéennes est tout de même surprenante, hein, ce qui prouve bien que effectivement les filles nées en France avec la nationalité française ne sont absolument pas à l'abri.
Bien sûr.
Bah c'est juste
évidemment
toute la question.
Parce qu'elles sont d'origine autre que française.
Évidemment, mais même ces jeunes filles en partant en vacances, par exemple dans le pays d'origine, si les parents ne sont pas là, parce que souvent les parents qui peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui veulent que leurs jeunes filles soient excisées, mais en tout cas elles pourront se protéger, parce que quand vous vivez en France, vous n'avez pas idée que une chose pareille puisse exister. Vous arrivez là-bas, votre tante vous amène et c'est fini. Alors que là, elles sont alertées.
Mais vous avez vu, le respect de la famille est tel que quelqu'un disait, je n'ose jamais parler de ce sujet avec ma mère, ma sœur, ma cousine. Donc c'est tellement tabou.
De poser la question.
Voilà,
est-ce que toi,
et de poser la question. Et si on veut l'obliger à le faire, quelle est dans la tête, dans l'éducation, la capacité de dire non? C'est là, aussi de dire à ces jeunes filles qu'elles puissent dire non.
C'est pas préparer aussi à dire non, c'est l'objectif de ce blog, justement.
Voilà. Et comme témoignage excellent personnel, idée. Je sais que dans mon pays, par exemple, c'est honteux de dire que tu n'es pas excisée.
Oui.
Dans mon pays,
en Égypte, par exemple, il y a une loi qui punit l'excision. En revanche, il y a encore des médecins qui continuent à sévir. Donc, c'est vraiment un problème.
C'est un problème masculin. Ouais. C'est un problème d'étroitesse d'esprit.
Enfin, c'est un problème féminin aussi, puisque ce sont les mères qui amènent leurs filles.
Oui, elles sont vraiment la gardienne de la prison des filles. Mais c'est au départ.
Le débat n'est pas clos
dans...
là-dessus, hein, bien évidemment. Vous reviendrez pour en discuter. Merci à vous, mesdames, les tchatcheuses, Anna Navarro-Pedro, Samira Ibrahim, sa fille Luna. Merci aussi à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néron, Sophie Janin à la réalisation, Didier Cherous. Demain, à 7 milliards de voisins, on parlera des hôtels en Afrique. Ils ne cessent de se moderniser pour rejoindre les standards internationaux. Mais pourquoi sont-ils si chers? Dites-nous ce que vous... Oui, sa fille, j'entends votre réaction.
C'est Anna qui a réagi.
Pardon. Dites-nous ce que vous pensez des hôtels dans lesquels vous séjournez pour le travail ou pour d'autres occasions. Vous pouvez nous appeler surtout dès maintenant au 33 84 22.
Qui s'en met plein les poches.
71. À demain.
Le prix théâtre.